Bonjour à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. Ce soir, la guerre au Yémen va-t-elle trouver une issue politique ? Parmi tous les mots que Toni Morrison maniait à sa façon, il y avait ceux de la guerre. Dans Home, Frank, un soldat afro-américain, est hanté par tous les morts laissés derrière lui pendant la guerre de Corée. Sans jamais lever la tête, juste en regardant à travers l'herbe, écrit-elle, on les a vus tirer un corps d'une brouette et le balancer dans une fosse qui attendait déjà. Un pied dépassait du bord et tremblait comme s'il pouvait sortir, comme si en faisant un petit effort, il pouvait surgir de la terre qui se déversait. Les mots de la guerre sont universels, ils ont fait pire que des combats de chiens, ils ont transformé les hommes en chiens. Aujourd'hui au Yémen, on ne sait pas bien qui sont ils. De la coalition menée par l'Arabie Saoudite pour rétablir dans ses fonctions le président Hadi, et dont on sait qu'elle utilise des armes vendues par la France et les États-Unis, ou des rebelles houthis chiites, originaires du nord du pays et qui bloquent l'accès des humanitaires à la population civile. Comme d'habitude, ce sont eux, les civils, les enfants, qui sont les boucs émissaires d'une guerre qui ne les concerne pas. Et dans les rues d'Aden et de Sanaa divaguent les chiens errants, les vrais, les enragés. En juillet, un acteur plus discret du conflit a dit vouloir se retirer pour partie, les Émirats Arabes Unis, qui disent vouloir favoriser une logique de paix. L'ONU s'en est aussitôt félicité. Mais que vaut cette annonce émiratie quand par ailleurs, les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, les vrais acteurs du conflit, ne semblent pas décidées à s'entendre. Alors va-t-on vers une solution politique ? Nous recevons deux invités ce soir pour en discuter jusqu'à 19h. Bonsoir Michael Neumann.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études au Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de Médecins sans frontières. C'est ce que vous appelez le CRASH. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est comme un centre de formation, une université, un QG ? C'est quoi ?
C'est ce qui se rapproche le plus d'un think tank interne, une cellule de réflexion hébergée par Médecins Sans Frontières, au profit de Médecins Sans Frontières, pour aiguiller les choix opérationnels et en termes de positionnement public de l'association.
Donc il n'y a pas seulement des humanitaires, il y a aussi des universitaires ou pas, des chercheurs, des militaires ?
Alors, on est une petite équipe, on est sept, ouais. Dont le profil est sensiblement le même. On dispose tous d'une solide expérience de terrain, chef de mission, responsable de programme, et puis avec une expérience dans les sciences sociales, ce qui nous permet d'aller piocher dans les méthodologies, les connaissances issues des sciences sociales, dans les différents contextes, situations dans lesquelles on travaille.
Et de bien comprendre un conflit avant de vous engager sur le terrain ?
Avant et pendant et après, donc en menant des activités de conseil, de réflexion, d'évaluation, effectivement de formation, à distance des événements ou pendant les événements, sur l'ensemble des situations d'intérêt de Médecins Sans Frontières, que ce soit les contextes d'intervention, les questions politiques, les questions médicales, ou les questions managériales.
Au Yémen, vous avez combien d'hommes, de femmes pour Médecins Sans Frontières ?
Alors, on a plusieurs centaines d'employés internationaux, des milliers d'employés yéménites. Le Yémen, aujourd'hui, pour Médecins Sans Frontières, est une des plus grosses opérations de secours en cours. On est présent au Yémen depuis bien avant le conflit de 2015. On y a été présent dans les années 90, on en est parti, on est revenu en 2007, au moment où les Houthis démarraient leur conflit, leur petit conflit à l'époque, contre le gouvernement central yéménite. Puis on est revenu, on y a développé des activités, évidemment, consécutives à l'intervention saoudienne en mars 2015.
Et comment se fait-il que Médecins Sans Frontières soit sur place quand d'autres ONG n'ont pas réussi à entrer ou à se faire accepter ?
Alors, beaucoup d'organisations sont sur place. Par contre, MSF dispose de moyens humains sur place, effectivement, dont les autres organisations disposent assez peu. On a développé des relations avec les belligérants qui sont, je dirais, si ce n'est unique, du moins assez exceptionnelles. Une capacité de négociation, on en parlera probablement.
Oui, vous allez nous raconter.
Avec les Saoudiens,
en détail.
Également les Houthis, qui nous permet un déploiement dans un nombre de gouverneurs très important, avec des difficultés réelles. Mais on y mène des activités significatives aujourd'hui.
Alors, vous êtes ce soir en studio avec François Frison-Roche, que je salue et que je remercie. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur spécialiste du Yémen au CNRS. Vous étiez de 2012 à 2014 directeur à Sanaa du projet français d'aide à la transition au Yémen. Alors, il faut replacer cette mission dans son contexte. Début 2012, c'est encore Ali Abdallah Saleh qui est au pouvoir, mais plus pour longtemps.
Exactement. Il est obligé de céder la place à son vice-président après les accords qui sont déroulés à Riyad, en Arabie Saoudite, à l'initiative du Conseil de coopération du Golfe, qu'on appelle le CCG, pour justement essayer de faire en sorte qu'il passe la main. Et il va finalement s'y résoudre après beaucoup de, comment dire, d'hésitation, parce que après 30 ans, 33 ans au pouvoir, il n'avait pas l'intention de lâcher prise, surtout qu'il travaillait beaucoup avec sa famille, d'autres tribus alliées, et donc c'était un véritable bouleversement.
Il faut dire que le vent des printemps arabes a soufflé jusqu'au Yémen.
Oui, d'une certaine façon, c'est notamment grâce aux images d'Al Jazeera venant donc du Qatar, ces images notamment de la Tunisie mais surtout de l'Égypte. Les Yéménites suivaient beaucoup ce qui se passait en Égypte et évidemment ils ont pour certains voulu faire en sorte qu'il y ait un changement au Yémen. Pour d'autres, alliés de Ali Abdallah Saleh, c'était une façon de se débarrasser de lui en épousant justement ce mouvement et en lui faisant faire un certain nombre de choses pour se débarrasser d'Ali Abdallah Saleh.
Qui finit par partir, céder la main, comme vous l'avez dit, à celui qui était son vice-président depuis longtemps et qui est toujours officiellement, en tout cas il est reconnu par la communauté internationale, le président du Yémen, c'est le président Hadi. Vous êtes dépêché par le gouvernement français. Enfin, c'est quoi votre mission et pourquoi la France vous donne cette mission-là et se mêle en fait de ce qui se passe au Yémen?
Parce que au moment justement de ces accords de Riyad, les principaux pays du Conseil de sécurité de l'ONU s'engagent à aider le Yémen. Les Américains s'engagent par exemple à aider la réforme de l'armée et des services yéménites. Les Britanniques, très pragmatiques, se disent « nous, on va aider à la reconstruction du Yémen une fois que les choses seront calmées ».
Parce qu'il était détruit ? Non, il n'était pas encore détruit, ni par les conflits, peut-être plus par une certaine pauvreté.
Non, mais de toute façon, le pays était dans une situation assez dramatique, avec aussi un taux de natalité, donc une population très importante, un chômage très important. Il fallait redonner en quelque sorte du souffle à cette économie qui était en train de s'essouffler. Et donc la France, à Riyad, a proposé son aide dans un secteur qui était justement l'aide à la transition, puisque avait été décidé qu'il y aurait une conférence de dialogue national et que cette conférence, qui allait réunir environ 565 personnes, devait fixer les principes de la future constitution.
Sauf que, alors, est-ce que ce sont ces événements qui précipitent votre départ, inattendus ou pas, mais les Houthis, les rebelles Houthis venus du nord du Yémen, viennent s'emparer de Sanaa en 2014, et c'est l'année à laquelle vous partez.
Oui, je suis parti, en effet, juste avant que les Houthis prennent le contrôle, notamment de l'aéroport. Je crois avoir pris, d'ailleurs, le dernier avion en septembre, pouvant partir librement, puisqu'ensuite l'aéroport a été fermé. Oui, les Houthis, après longue évolution, n'étaient pas satisfaits du projet de constitution rédigé par une commission qui avait été d'ailleurs exfiltrée à Abu Dhabi. Et ce projet de constitution voulait fédéraliser le Yémen, ce qui en soi est une solution tout à fait...
qui vous semble pertinente.
Oui. Le problème, c'est que le président Hadi refusait d'accorder une zone aux Houthis qui pourrait leur permettre de se développer, notamment avec un accès à la mer, car les Houthis ont toujours été aussi des acteurs d'une certaine forme de... Allez, je dirais le mot trafic. Et que si on leur coupait l'accès à la mer, eh bien, évidemment, c'était pour eux une perte de revenus.
Assez vite, l'Arabie Saoudite va lancer les hostilités avec l'opération Tempête décisive par cette coalition arabo-sunnite, en tout cas, qui est menée par Riyad. Michael Neumann, quels indices à l'époque donnaient déjà à penser que les Houthis étaient soutenus par l'Iran, puisque c'est un des nœuds du problème? Et quels indices donnent à penser qu'ils le sont encore?
Alors, de notre côté à nous, humanitaire, on n'a pas d'indicateur, on n'a pas de preuve du soutien par l'Iran de la rébellion houthi. Les Houthis, qui sont d'ailleurs de tradition zaïdiste, qui est elle-même une branche dissidente du chiisme, mais il n'y a pas d'alliance naturelle de type essentialiste comme ça entre l'Iran et les Houthis. Par contre, on a retrouvé chez les Houthis un certain nombre de slogans politiques qui convergent avec ce qu'on peut entendre en Iran, de haine des États-Unis, de haine des Juifs, de haine d'Israël, etc., etc. Les Houthis ont beaucoup puisé pour mener leur guerre dans l'arsenal conquis de l'armée yéménite. On rappellera que un des premiers gestes de l'ex-président Saleh, une fois son départ du pouvoir et la prise de Sanaa par les Houthis, a été de s'allier aux Houthis. Sous la forme d'une alliance totalement inattendue et contre nature. Disons contre nature, pas tellement inattendue, parce que le Yémen est relativement finalement familier de ce type d'alliance un petit peu saugrenue ou illogique. Mais on est dans des logiques qui sont d'abord yéménites, d'abord internes, auxquelles viennent s'ajouter des dynamiques régionales. Et puis aujourd'hui, on le voit international avec les États-Unis, effectivement, qui semblent peser de tout leur poids.
Le président Saleh, qui regrettera ou n'aura peut-être pas l'occasion de s'en rendre compte, de le réaliser, mais qui regrettera de s'être allié avec les Houthis, puisque ses alliés de circonstance le tueront quelques temps plus tard. François Frison-Roche, l'Arabie Saoudite, si elle intervient au Yémen, c'est sans doute... Qu'est-ce qu'elle se dit, quoi? Qu'est-ce qu'on se dit à l'époque? Montrons à l'Iran de quoi on est capable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme terrain de démonstration militaire? Ah tiens, le Yémen?
Le Yémen a toujours été considéré par l'Arabie Saoudite comme une zone d'intervention. Quand je suis arrivé, c'était de notoriété publique dans les ambassades que l'Arabie Saoudite payait énormément les tribus sur sa frontière pour avoir un certain calme et contrôler un certain nombre de choses. Ensuite est arrivé un certain nombre d'événements sur le plan international. Je vais être bref, mais ça a été quand même le fait que les États-Unis n'aient pas soutenu véritablement Hosni Moubarak, qui était un allié des États-Unis, qu'ils étaient plutôt, mal à l'aise avec ce qui se passait en Syrie. L'Arabie Saoudite s'est dit, mais finalement, les États-Unis ne sont pas automatiquement en train de nous soutenir, comme l'histoire l'avait prouvé avec un accord à la fin de la Seconde Guerre mondiale entre président américain et puis fondateur de l'Arabie Saoudite. Et donc, est arrivé un moment où les Saoudiens se sont dit « mais il faut absolument qu'on verrouille cette zone yéménite parce que nous sommes en train de nous affronter à une puissance régionale importante, l'Iran ». Il ne faudrait pas que, par derrière, puisque les Houthis sont assimilés à des chiites, donc chiites Iran, on puisse avoir là une zone d'instabilité. En plus de ça, il faut dire que l'ONU, à une époque, notamment dans ce projet de constitution, était en train de proposer non seulement un Yémen fédéral, où il y aurait 33% de femmes élues au Parlement, où il y aurait une justice qui sont indépendantes, enfin, des tas de choses qui ne plaisaient pas du tout à l'Arabie Saoudite. Il ne s'agissait pas que le Yémen, déjà une république parmi les monarchies, puisse commencer à donner ce mauvais exemple parmi tous les peuples qui sont quand même relativement proches du Yémen.
D'où cette opération tempête décisive en mars 2016. Et très vite, dès le mois d'avril, donc un mois plus tard, et on en vient progressivement à notre sujet, mais je trouve important de reposer les fondements de cette histoire. Très vite, il y a des négociations de paix, en fait, donc dès le premier mois de guerre, sous l'égide de l'ONU. Le président Hadi, donc soutenu par l'Arabie Saoudite, rejette le plan de paix. Michael Neumann, à chaque fois qu'il y a des négociations de paix, comment vous les suivez, vous les ONG? Est-ce que vous êtes invité? Comment vous faites connaître l'aspect humanitaire de la question? Ces toutes premières négociations, est-ce que vous en faites partie?
Non, on n'en fait pas.
Vous y êtes en tant qu'invité.
On n'en fait pas partie, on n'est pas invité. Alors vous avez des organisations non gouvernementales qui sont spécialistes de ces questions et qui les suivent, je dirais à titre professionnel, qui sont associés, et d'autres qui sont des organisations de secours et qui doivent analyser la situation, essayer de comprendre les dynamiques, d'établir un peu des projections, de voir un peu comment ça se passe, d'analyser les alliances. En l'occurrence, ce qu'on observe assez vite quand même en 2015, c'est que l'Arabie Saoudite et le prince Ben Salman en particulier vit de l'espoir et de l'illusion, comme on le verra assez rapidement, qu'il est en mesure d'écraser assez rapidement la rébellion houthi, qu'il n'a pas tellement d'intérêt à faire de concessions, et que les houthis sont également assez confiants de leur fait. Donc, ce rapport de force étant établi, l'échec de négociation est pas très surprenant, d'autant que l'année 2015 est celle où les bombardements et l'offensive saoudienne sur le pays sont les plus violents, virulents, meurtriers et destructeurs.
Bombardements qui visent spécifiquement à un moment des fermes, des marchés, des silos à grains, des silos à farine, des réserves de fruits et de légumes. On accuse beaucoup les Houthis de bloquer l'aide humanitaire, l'acheminement de l'aide humanitaire, mais en réalité, les deux parties sont responsables dans cette histoire de...
Oui, les deux parties sont responsables. Alors là aussi, la situation a beaucoup évolué. Ça fait 4 ans et demi presque maintenant que le conflit a démarré. Donc en 4 ans et demi, il s'est passé beaucoup de choses. L'Arabie Saoudite a commencé à bloquer pas mal d'importations.
Le programme alimentaire mondial aussi suspend son aide.
Là, sur une période beaucoup plus récente, l'Arabie Saoudite, ces 2-3 dernières années, a été l'un des plus grands financeurs de l'aide humanitaire destinée à la population civile yéménite. Aide alimentaire et aide humanitaire en général, qui au nord est de manière assez paradoxale très largement contrôlée par les Houthis.
Donc l'Arabie Saoudite, in fine, nourrit les Houthis,
d'une certaine manière, et l'Arabie Saoudite, effectivement, nourrit ses ennemis dans une logique d'économie de guerre qui est là encore pas très surprenante. On est dans une situation où le conflit aujourd'hui semble se prolonger parce qu'il bénéficie à tout un tas de gens très puissants et qui en tirent d'énormes profits économiques.
Alors va-t-il continuer suite à l'annonce des Émirats Arabes Unis ? Encore une fois, on en vient progressivement à cette question d'actualité. Il y a François Frison-Roche à nouveau en septembre 2018, des négociations de paix cette fois à Genève. Les Houthis ne sont pas là. Ça veut dire que rien ne les y oblige à l'époque. Septembre 2018,
non.
C'est encore...
Ils ne sont pas sur place parce qu'ils n'ont pas obtenu les assurances pour pouvoir voyager.
D'accord.
Donc la nuance est quand même très importante à souligner.
C'est pas qu'ils refusent.
Ils n'ont pas pu rejoindre Genève, c'est que l'Arabie Saoudite qui contrôle le ciel yéménite n'a pas donné l'autorisation aux avions de pouvoir décoller. Donc les Yéménites, évidemment, ne sont pas à Genève. Mais ça, c'est un petit peu, j'allais dire, à la fois l'erreur du représentant de l'ONU et puis... ma foi, ça a permis de manipuler un petit peu l'information, parce que comme ça, on a dit, voyez, ces outils, ils ne veulent pas venir parler.
Alors, ils rejoignent donc les négociations en décembre à Stockholm, ça veut dire qu'on a débloqué leur situation. Ils peuvent se déplacer jusqu'à Stockholm. Qu'est-ce qui convainc tout le monde à signer un accord de trêve provisoire ? Est-ce que c'est justement parce qu'il y a le mot provisoire que ça met tout le monde en confiance ? On se dit, on ne prend pas trop de risques ?
Non, je crois qu'il y a eu concomitance de deux événements très importants. Le premier, c'est que le monde prend conscience de la crise humanitaire au Yémen. Quelle que soit son importance, peut-être le représentant de MSF qui pourra mieux en parler que moi. Et puis, il y a l'affaire Khashoggi, donc de ce journaliste saoudien qui a été assassiné par un service de l'Arabie Saoudite au consulat d'Istanbul. Ça a permis quand même aux puissances occidentales de faire une certaine pression sur les protagonistes principaux, l'Arabie Saoudite et les Émirats, pour qu'ils lâchent un petit peu de lest, si vous permettez cette expression. Et donc là, Martin Griffiths, le représentant de l'ONU, a pu organiser cet accord qui concernait le port d'Hodeïda et deux ports accessoires à côté. Il y avait normalement prévu comme mesure de confiance des échanges, un échange de prisonniers et aussi la situation dans la ville de Taiz. Jusqu'à maintenant, on parle que de ce qui se passe à Hodeïda parce que c'est un port essentiel pour l'acheminement de l'aide humanitaire. On ne parle plus de l'échange de prisonniers, mesure de confiance essentielle. et de ce qui se passe dans la ville de Taiz.
À Hodeïda, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de prolonger de 6 mois sa mission là-bas d'observation du cessez-le-feu. Vous avez vu, Michael Neumann, vous avez vu physiquement les rebelles houthis se retirer du port d'Hodeïda. Enfin, comment ça s'est passé? Ils le bloquaient physiquement, ce port. Comment ça se passait? Et qu'est-ce que vous avez vu après ces accords de paix?
Le port d'Hodeïda, il est effectivement stratégique parce que il faut rappeler que le Yémen est un pays qui n'est pas autonome sur le plan alimentaire, qui bien avant le conflit importait une très grande partie des ressources dont il avait besoin pour nourrir sa population. Le Yémen produit peu, produit du cat notamment, mais produit peu de denrées consommables.
Il faut importer massivement.
Il faut importer. Donc,
pour 25 à 30 millions d'habitants, hein, c'est ça le Yémen. Donc,
quasiment 30 millions d'habitants, effectivement, même si le recensement est sans doute un petit peu peu fiable, mais autour de 30 millions d'habitants. Et donc les ports sont indispensables, le port d'Aden en particulier, et puis le port d'Hodeïda pour le nord. D'autres ports, Moukala notamment. Et donc le contrôle de ce port est stratégique pour la survie du Yémen, effectivement. Ou en tout cas la survie d'une partie du pays, et très clairement pour le nord. Les Houthis s'étaient emparés d'Hodeïda. Il était important pour ce qu'on appelle la communauté internationale organisée de permettre de se voir accéder à ce port. Finalement, les denrées alimentaires passent. Elles ont continué à être passées par.
Il y en a beaucoup. Vous recevez une grande aide. Il y a un intérêt de la communauté internationale.
Encore une fois, je pense que c'est là où la discussion sur la famine qu'on pourrait avoir, ou sur la description de la crise humanitaire telle qu'elle a été beaucoup présentée ces derniers mois, il est intéressant d'y revenir. C'est que même si au début du conflit en 2015, les Saoudiens ont très largement souhaité contrôler les importations, ce qui rentrait au Yémen, en particulier pour vérifier qu'il n'y avait pas d'armes qui allaient bénéficier aux Houthis, très rapidement, des mécanismes ont été mis en place qui ont permis d'alimenter massivement le pays en tonnage alimentaire. Ce sont des dizaines de milliers de tonnes d'aliments qui sont arrivées au Yémen tous les mois pour approvisionner la population, ce qui a permis à cette population de s'en sortir. Et donc le pays est très largement aujourd'hui dépendant de l'aide internationale.
Parce que ce qu'on voit et ce qui nous choque, ce sont évidemment toutes ces photos d'enfants malnutris ou pas nourris du tout, en train de se mourir au Yémen. Donc il y a un débat, en fait, ça paraît bizarre pour les Béotiens de se dire qu'il puisse y avoir un débat entre ONG sur famine ou pas, ou famine organisée ou pas.
Alors il y a un débat parce qu'effectivement la situation n'est pas claire. Il est très difficile aujourd'hui d'accéder à l'intégralité du territoire. On ne sait pas ce qui se passe partout. Par contre, on sait, nous, MSF, de notre point de vue, du point de vue d'une organisation assez présente sur une grande partie du territoire, que nos observations ne nous permettent pas de vérifier la thèse de la famine. Donc vous avez un pays qui allait mal avant la guerre, dont on peut évidemment s'attendre à ce qu'il aille encore moins bien après le conflit, mais dont les indicateurs en termes notamment de mortalité et de malnutrition ne sont pas si catastrophiques que ce à quoi on pourrait s'attendre. Par contre, effectivement, la situation de l'accès aux soins est terrifiante, la situation d'accès à la scolarité,
les hôpitaux,
est horrible. Nos hôpitaux ont été, pour certains, bombardés par la coalition saoudienne. Donc,
c'est un acte de guerre, c'est un crime de guerre de bombarder
un
hôpital.
Oui, ça peut effectivement être un crime de guerre.
Ça peut. Pourquoi? Il faut monter un dossier. Enfin, je veux dire, c'est plus compliqué que ça
pas
de le faire reconnaître.
Par des belligérants. Il faut, en tout cas, en l'espèce, effectivement, il y a de quoi constituer un dossier solide.
François Frison-Roche, c'est vrai qu'il existe encore une fois un débat entre les ONG sur cette question de la famine, et évidemment qu'il est surprenant de s'entendre dire que le Yémen n'est pas dans une situation de famine organisée, quand d'un autre côté l'ONU nous dit qu'on est face à la pire crise au monde, et ces mots ont un sens. Je trouve un petit peu étrange de dire que l'ONU compare à d'autres guerres qui seraient donc moins pires, la Libye, la Syrie, les Ouïghours en Chine.
Non, ce qu'il y a, c'est que au Yémen, l'essentiel de la population se trouve sous contrôle houthi. Donc sur une population d'environ 30 millions, parce que bon, il peut y avoir un peu moins, un peu plus, c'est vrai que les statistiques ne sont pas très fiables, vous avez environ, donc disons sur 30 millions, 25 au nord et 5 au sud. Donc vous voyez que vous avez une masse considérable de population dans des zones montagneuses ou difficilement accessibles.
Pour l'aide humanitaire, vous voulez dire, ou pour les belligérants?
D'accord. Les belligérants, les Houthis, ils connaissent le terrain. C'est pour ça d'ailleurs que l'Arabie Saoudite n'a jamais envoyé de soldats au sol. Parce que c'est très difficile de tenir des zones montagneuses. On a des exemples de pays bien plus, entraînés, les États-Unis en Afghanistan, pour voir que tenir la montagne, c'est pas facile. Donc, pour en revenir à cette question de population, vous avez une majorité de la population yéménite qui se trouve sous le contrôle des Houthis. Et donc, ces populations, évidemment, elles sont difficilement joignables. Comme disait Michael tout Neumann. À l'heure, c'est difficile de joindre parce que sur place, vous avez aussi le côté tribal. C'est pas simple d'avoir contact avec des gens qui tiennent une vallée, qui sont établis à tel endroit, qui peuvent éventuellement avoir des ressources propres, parce que quand même cette zone est montagneuse, donc reçoit de la pluie. Donc il y a possibilité d'avoir... Ce qui est très étonnant de voir au Yémen, c'est que la production de cat n'a pas diminué. C'est que donc, vous avez encore des gens qui travaillent la terre, mais pour produire du cat. Parce que le cat rapporte de l'argent. Et tous les combattants préfèrent mâcher du cat que éventuellement de nourrir.
Y compris avec l'Arabie Saoudite.
Avec l'Arabie Saoudite, puisque le cat étant interdit en Arabie Saoudite, il y a évidemment du trafic.
Il y a quand même des milliers d'habitants qui ont été réduits il y a quelques jours à sortir leur filet lors d'une grande attaque de criquets pèlerins à Sanaa. On a vu des milliers de personnes sortir de leur maison avec des filets pour attraper les criquets et pouvoir les manger. Criquets qui par ailleurs ont sans doute abîmé les récoltes des agriculteurs, donc ce qui a peut-être encore compliqué la tâche des humanitaires. Mais nous voici donc en juillet dernier, les Émirats Arabes Unis annoncent leur retrait à venir d'une partie des troupes du Yémen pour favoriser ce qu'ils appellent une logique de paix. Quel rôle y jouaient jusque-là les Émirats Arabes Unis? François Frison Roche n'était pas l'acteur le plus visible, pas celui dont on parlait le plus.
Oui, les Émirats, Mohamed Ben Zayed est très malin. Il se dissimule en quelque sorte derrière MBS, donc Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite, pour lui accomplir un dessein qu'il a manifestement, c'est de devenir la puissance garante de la sécurité de la zone du Golfe d'Aden, du détroit de Bab-el-Mandeb.
C'est pas déjà Oman qui s'est un peu donné ce rôle-là?
Ah non, Oman pas du tout. Non, Oman est un petit pays qui essaye de rester neutre entre l'Arabie Saoudite, l'Iran. Oman n'est absolument pas intéressé par ce genre de choses. Par contre, les Émirats ont créé des bases en Érythrée, au Somaliland, au Puntland, et donc il était nécessaire qu'ils disposent notamment du port d'Aden et du port d'Al-Mukalla pour avoir en quelque sorte le contrôle de cette zone. Donc les Émirats, ils s'intéressent uniquement au sud Yémen, à la partie sud du Yémen, les côtes du Yémen, pour une question de sécurité.
Mais alors, ça veut dire qu'ils sont concentrés là et que leur retrait, s'ils l'opèrent, comme ils l'ont annoncé, ne concernera que le sud du Yémen? Ils sont combien d'hommes sur place, les Émirats à peu près?
Combien exactement? On parle d'environ 9000.
Quelques milliers,
oui. Oui, quelques milliers.
Ça vous a surpris, Michael Neumann, cette annonce-là?
On en entendait des vagues rumeurs depuis quelques semaines, mais effectivement, malgré tout, la soudaineté de l'annonce a surpris. Je dirais que même si on n'est pas dans la tête des Émiratis, qu'il est bien difficile d'analyser les raisons de cette décision, et de l'annonce en tout cas de la décision, et qu'ils ne l'ont eux-mêmes pas rendu très clair. Je pense que les Émiratis, bien davantage encore que les Saoudiens, se rendent compte que ce conflit à l'état actuel, il est pour eux ingagnable. Que les Houthis sont là pour rester, que l'unité du pays, on n'a pas précisé, mais le Yémen est un pays qui jusqu'à 1999,
début des années 90,
était divisé en deux, avec un Yémen du Nord et un Yémen du Sud, avec une tension qui a persisté toutes ces années, et que cette logique centrifuge, elle est particulièrement puissante aujourd'hui. Il est difficile de la maîtriser, et que et qu'il est possible que les Émiratis aient jugé qu'ils en avaient fait, ils en avaient tiré le maximum et qu'il était difficile d'en faire davantage.
François Frison Roche.
Oui, je crois qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que les Émiratis, ils sont au sud Yémen depuis 4 ans et demi maintenant. J'allais dire qu'ils ont fait les milices, ils ont formé les milices qui leur obéissent, puisque ces milices sont dépendantes de l'approvisionnement, les salaires, la formation des Émirats. Les Émirats ont donc maintenant plutôt tendance à dire, ben voilà, on a des gens maintenant sur place, on les tient bien, on peut se retirer. Et puis, il y a aussi les tensions internationales. Parce qu'on a vu ce qui se passait dans le détroit d'Ormuz, qui est en première ligne les Émirats. Et donc, vis-à-vis de, j'allais dire, une opinion public international, si je puis utiliser cette expression qui n'a pas beaucoup de sens finalement, comment les Émiratis peuvent être dans un combat contre l'ennemi iranien en face de chez eux et être présents sur un terrain extérieur comme le Yémen. Donc ils décident de rapatrier, du moins ils le disent, parce que pour l'instant on n'a aucune preuve de ce retrait. Mais ils peuvent retirer un certain nombre d'officiers. On dit qu'ils se retirent notamment de la zone d'Hodeïda, puisqu'il y avait deux forces concurrentes d'ailleurs pour lutter contre les Houthis qui dépendaient de la logistique émiratie. Peut-être que cela va simplifier en effet les choses à Hodeïda, puisque ces deux forces yéménites pro-gouvernementales, comme on dit, ne vont plus avoir autant peut-être de matériel et d'instructions.
Les Émirats arabes unis ont dit qu'ils voulaient passer d'une stratégie militaire à une logique de paix. Et voilà l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, se féliciter de cette annonce, dire que l'impact pourrait être d'une haute importance stratégique. Est-ce que vous le trouvez très optimiste ou est-ce que vous le trouvez réaliste, Michael Neumann? Et comment ça peut... forcément, vous êtes obligé de suivre tout ça, puisque forcément, ça aura des conséquences sur votre action humanitaire.
Je pense que Martin Griffiths fait de la politique, il a raison, il est dans son rôle, de la même manière
c'est que... C'est une fausse joie, alors. Une foi feinte.
C'est une joie calculée. C'est une joie calculée, de la même manière que lorsque les envoyés des Nations Unies mettent en scène, à force de discours, la famine ou la crise humanitaire au Yémen, ils font de la politique.
C'est de la mise en scène pour vous, c'est
d'attirer de la mise en
scène, assez lourde.
C'est pas forcément du faux, c'est une façon de construire un problème, de construire médiatiquement et politiquement un problème. Ça ne veut pas dire que tout est faux, ça veut dire qu'on rend visible une situation et que rendre visible la situation du Yémen, y compris de manière un petit peu caricaturale ou exagérée, ça permet de mettre la lumière sur une situation dont on peut être ignoré. Ça permet aussi de faire pression sur les belligérants. Dire il y a de la famine au Yémen parce que le blocus, parce que les Houthis, parce que ceci et cela, ça permet de dire aux Saoudiens, aux Houthis, aux Émiratis, écoutez, maintenant, il est important de faire quelque chose. Et donc, on est dans un théâtre. Effectivement, les relations internationales, dans un contexte comme celui-là, sont également un théâtre.
Mais c'est terriblement cynique et c'est dur à entendre quand on sait que, encore une fois, ce sont les populations civiles qui en font les frais. D'un théâtre dont ils ne sont pas du tout les acteurs, en fait. On ne leur a pas demandé ils ne voulaient pas monter sur la scène de ce théâtre-là.
Non, ils ne voulaient effectivement pas monter sur la scène, mais la réalité aujourd'hui, c'est effectivement celle-là. Je ne suis pas... Il ne s'agit pas de dédouaner ou de porter le fer ou de rendre coupable qui que ce soit, mais simplement de décrire une situation qui est effectivement celle de rapport de force, de rapport de pouvoir avec laquelle il faut jouer, qu'on soit émirati, saoudien ou représentant des Nations Unies.
François Frison Roche, est-ce que la coalition d'ailleurs arabe est en train de se fissurer ou c'est pas du tout comme ça qu'il faut interpréter ce retrait émirati?
Évidemment, de ne pas montrer une rupture. Ils vont essayer évidemment, parce que c'est l'intérêt et la foi des Saoudiens et des Émiratis, de rester en bloc. Maintenant, ce que l'on peut dire sur l'enthousiasme de Martin Griffiths, c'est un Britannique, eh bien, il connaît cette formule du wishful thinking, c'est-à-dire, voilà, ce sont des espoirs que l'on met en scène, comme vous dites, parce que c'est du théâtre. Il faut absolument dramatiser la situation, parce que si on laisse faire, la guerre peut durer comme ça encore pendant des années. Donc, il faut attirer les puissances occidentales, notamment, parce que c'était très étonnant, hein. La Russie, la Chine n'est pas véritablement partie prenante dans ce conflit. C'est un conflit qui reste quand même très spécifique.
Bah, les États-Unis sont partie prenante en vendant des armes. On peut quand même mettre en avant cette question-là qu'on n'a pas abordée. Ça fait l'objet d'une émission à part entière. Mais les États-Unis, et notamment Donald Trump, en apposant encore un veto à la volonté du Sénat américain d'arrêter la vente d'armes à l'Arabie Saoudite, prend parti quand même dans le conflit d'une certaine façon.
Oui, je parlais de la Russie. Et de la Chine,
je pensais que vous parliez...
qui ne sont pas... Et dans le conflit syrien, vous avez une opposition, je veux dire, de la Russie et des États-Unis. Au Yémen, il n'y a pas cet affrontement.
La Russie ne soutient pas l'Iran spécialement sur le Yémen, on ne sait pas,
mais de manière
aux Nations
très, très
Unies.
Discrète. Et dans les derniers votes à l'ONU, la Russie comme la Chine sont pour la négociation, la résolution, trouver une solution politique à la crise au Yémen. Ce que je voulais dire quand même sur la question de la famine, quand j'étais au Yémen, on avait des photos comme quoi dans la province de Tihama, c'est-à-dire toute cette province côtière de Hodeïda jusqu'au plus au sud, il y avait des situations de famine. On voyait des photos d'enfants avec des ventres gonflés parce que Tihama était totalement abandonné. Il n'y avait pas de leader suffisamment fort à Sanaa, donc c'était une zone totalement abandonnée et il y avait une situation de famine. Donc la situation est préexistante. Elle était
préexistante à la guerre, au conflit.
Préexistante à la guerre.
Michael Neumann, on est obligé de rester un tout petit peu sur cette question des armes. Évidemment, le Royaume-Uni a décidé fin juin de suspendre les ventes à l'Arabie Saoudite d'armes susceptibles d'être utilisées au Yémen. En tout cas, le temps que le gouvernement britannique fasse appel d'une décision de la Cour d'appel de Londres saisie par une ONG qui a estimé que ces ventes d'armes étaient entachées d'une erreur de droit. Mais le gouvernement britannique, lui, veut absolument faire appel. Il trouve que cette décision de la justice est injuste et qu'il faut absolument continuer à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. C'est le cas de la France aussi, où des dizaines de députés demandent qu'on puisse mettre en place un vrai contrôle parlementaire. Admettons que les Occidentaux arrêtent de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, est-ce que la guerre s'arrêterait ? Enfin, c'est une question très naïve, mais est-ce que ce serait une solution miracle ou pas ?
Je crois qu'on a été très surpris de voir la capacité des Houthis à maintenir leur capacité militaire, alors même que... tout approvisionnement officiel leur était fermé.
Je pense qu'ils sont livrés par l'Iran ou pas ? On ne sait pas. François Frison-Roche dit non.
Et très honnêtement, je pense qu'ils ont d'abord été cherchés dans l'arsenal, comme je le disais tout à l'heure, dans l'arsenal militaire yéménite.
Enfin,
donc en parlant des Saoudiens,
fou.
La situation est, je dirais, leurs réserves sont encore plus formidables. La discussion qu'on a sur le rôle de la France et de la Grande-Bretagne, il est important. Ce serait peut-être exagéré de dire qu'il est que symbolique, mais il est aussi symbolique. Il permet de mettre le doigt sur un vrai problème qui est le manque total de transparence avec lequel la France, en particulier, parce que c'est un dossier que je connais un petit peu mieux que celui de la Grande-Bretagne, vend ses armes et fait son commerce militaire sur un autre dossier là, sur lequel je travaille, en l'occurrence la Libye. Nous avons, avec d'autres organisations, dont Amnesty International et Logistie, demandé devant la justice la suspension de la donation par la France à la Libye de navires destinés à empêcher les migrants de traverser la Méditerranée. Et nous avons pu voir l'énorme difficulté qu'il y avait à exercer un contrôle citoyen, parlementaire, judiciaire sur ces transactions.
François Frison-Roche, le fait que le Royaume-Uni pour l'instant suspende ses ventes, est-ce que ça va changer quelque chose sur le terrain ?
Non, ça ne changera rien. L'Arabie Saoudite est suffisamment riche pour savoir qu'elle peut faire des stocks. Que le président Trump a déjà d'ailleurs délivré des bombes à fragmentation venant de stocks américains, donc il n'avait pas demandé l'autorisation au Congrès, puisque c'était simplement le transfert en quelque sorte. Bon, on peut parler en effet vente d'armes. Le problème, c'est qu'au Yémen, pendant 33 ans, Ali Abdallah Saleh avait accumulé énormément d'armes. Il achetait partout, notamment des missiles. Quand vous voyez une carte du Yémen, vous voyez bien que l'Iran ne peut pas approvisionner le Yémen. Parce que au nord, il y a l'Arabie Saoudite et que donc tout transfert aérien est impossible. Il n'y aurait que par la mer. Vous imaginez bien que quand les États-Unis sont capables de frapper Al-Qaïda avec leurs drones tueurs, qu'ils ont leurs satellites axés sur le Yémen, ils peuvent suivre l'arrivée de tous les bateaux. On voit bien que l'Iran a peut-être donné à certains moments un certain nombre de choses, mais très peu. Ce qui explique justement le fait que les Houthis continuent à se battre, c'est qu'ils puisent dans les réserves et surtout qu'il y a une partie de l'armée yéménite qui était restée fidèle à Ali Abdallah Saleh, qui se trouve agressée par l'Arabie Saoudite et qui se bat avec les munitions qu'ils ont. Puisque maintenant, ils bidouillent même des drones pour pouvoir... Ils n'ont plus de missiles. Donc, ils bidouillent des drones pour envoyer sur les ports saoudiens.
Et voilà pourquoi les Houthis continuent à se battre. Mais l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui la motive à continuer ces bombardements? Ça lui rapporte quoi? Je veux dire, là, ça tourne à vide, de toute façon.
Vide.
Alors, pourquoi ça continue?
Parce qu'ils ne peuvent pas... Vous savez, quand on est chef d'État, il faut avoir une certaine cohérence dans la façon d'imaginer un certain nombre de choses. Là, on a une impétuosité due à ce jeune prince saoudien. Il a débuté une guerre, il ne sait pas s'en dépatouiller. Alors, il continue à bombarder parce que ça répartit, j'allais dire, il ne peut pas rester à ne rien faire. Mais il ne veut pas négocier aussi vite ou peut-être parce qu'il ne sait pas ce qu'il va devoir laisser donner, négocier, et ben voilà, il continue.
Et on ne sait pas ce que les États-Unis, dans le dossier iranien par exemple, tout ça qu'on est toujours en mouvement,
oui, dans un
les États-Unis.
Plus, ça régional,
voilà,
qui
et international.
De plus en plus tendu, et les États-Unis ne peuvent pas se permettre de lâcher l'Arabie Saoudite. Et c'est pour ça que le prince Salman continue. Il sait très bien que les États-Unis ne peuvent pas le lâcher.
Pour conclure, Michael Neumann, on est très gênés dans les rédactions, notamment ici à France Culture, parce que ça fait des mois qu'à chaque fois qu'on parle de la guerre au Yémen, on dit ce conflit qui a fait plus de 10 000 morts, c'est le seul chiffre qu'on a, ça fait quand même, je sais pas, ça fait 3 ans qu'on dit ça. Pourquoi on n'en sait pas plus? Et qu'est-ce que vous en savez? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'enterrement, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus personne pour tenir les registres? Ça veut dire quoi?
On en sait un peu plus aujourd'hui depuis qu'une organisation qui s'appelle ACLED, qui est... En Grande-Bretagne, si je m'abuse, a établi un nouveau bilan. Effectivement, vous avez raison, ce bilan de 10 000 morts était devenu totalement ridicule. On en était resté bloqué à 2016. Plus raisonnablement, on estime aujourd'hui que entre 60 et 100 000 personnes sont décédées dans le cadre du conflit, dont un tiers de civils. Ça veut dire que ce conflit fait des ravages absolument monstrueux malgré tout. Les infrastructures civiles, agricoles ont été largement détruites, les hôpitaux, le système de santé déjà extrêmement fragile l'est davantage, les prix augmentent, les déplacements de la population sont rendus extrêmement précaires, périlleux, c'est dangereux. Et les interventions, je dirais, d'organisations comme les nôtres, elles sont à la fois difficiles et indispensables.
Voilà, et un conflit, une guerre qui continuera à faire des morts malgré sans doute le retrait de l'annonce émiratie et sans qu'on sache exactement ce qui finira par dénouer.
Bah écoutez, alors conflit. Là, juste ouais. Parce que cet événement vient de se dérouler, mais l'annonce émiratie, elle date de mi-juillet et la semaine dernière, deux attentats à Aden ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes.
Merci beaucoup François Frison-Roche également d'avoir été avec nous pour rendre compte de cette guerre dans sa complexité. Et vous lui ajoutez quelque chose sur cette guerre qui continue?
Ce conflit est insoluble si les parties, à la fois locales, régionales et internationales, ne se mettent pas d'accord sur une sortie de crise.
Merci François Frison-Roche, ainsi qu'à vous, Michael Neumann. Merci aussi à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Stéphanie Villeneuve, Aliette Ovine, Léa Capuano, Valentin Berg et Roxane Poulain. Émission réalisée par Pablo Valero et Milena Elig, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.